Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, au micro Morgane Diriec et Chérubin Dorcil.
Les grands points de l'actualité, violente manifestation à Zender au Niger contre la publication de caricatures du prophète Mohammed.
C'est une première ici, on n'a jamais vécu une manifestation de telle ampleur à caractère religieux.
Le journaliste nigérien Amadou Mahamadou.
Dans le nord-est du Mali, une attaque a fait 5 morts et plusieurs blessés près de Mopti.
L'opposition gabonaise se réjouit de la libération de plusieurs dizaines de ses partisans arrêtés le 20 décembre à Libreville.
Nous avons eu la joie d'apprendre ce matin que le juge avait suivi les plaidoiries de nos avocats et avait relaxé la quasi-totalité des prévenus.
John Kerry à Paris pour un hommage aux victimes des attaques terroristes à la Maison-Blanche, Barack Obama et David Cameron réaffirment leur engagement commun dans la lutte contre les extrémistes.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économie, les sports avec la CAN 2015 en perspective et la musique, mais d'abord le journal.
Violente manifestation aujourd'hui à Zender, au Niger, après la prière du vendredi, en réaction à la caricature du prophète Mohammed, parue en une du dernier numéro de Charlie Hebdo. Au sortir des mosquées, des centaines de musulmans s'en sont pris à des édifices publics, des églises et des débits de boissons. Timothée Donangmaï a joint sur place notre confrère Amadou Mahamadou.
On dénombre 4 morts, dont un gendarme qui... Un véhicule devant la foule, le véhicule de la gendarmerie faisait marche arrière et marchait sur lui, il est mort, il serait à l'hôpital. 3 autres par balle, en tout cas selon les informations hospitalières, ou en tout cas, mais jusqu'à présent on attend la confirmation officielle. Bon, les corps ont été vus, mais du côté des autorités, on n'a pas encore confirmé. On parle de 4 morts, 3 blessés, dont un infirmier dont la main a été coupée en manipulant une grenade.
Notre confrère Amadou Mahamadou joint à Zender au Niger. Au Mali, la ville de Ténankou, dans la région de Mopti, s'est réveillée ce matin par des tirs de groupes armés non identifiés, faisant 4 morts et 5 blessés. Les assaillants ont pu s'enfuir à bord d'un véhicule et sur des motos, nous dit notre correspondant à Mopti, Mamadou Bokoum.
La ville de Ténankou a été encore attaquée par des hommes armés ce vendredi entre 6h et 9h du matin. Bilan, 4 morts dont 3 militaires et 1 civil et 5 autres blessés, tous des militaires selon des informations reçues du centre de santé de référence. Les assaillants ont quitté vers la commune de Kariri pour longer les bords du fleuve en passant par le village de Penga avant d'attaquer la ville de Ténankou. Ils sont arrivés à bord d'un véhicule immatriculé AMA, armée malienne, et des motos selon nos sources. Ces hommes sont tous des noirs et parlent correctement la langue peul. D'autres parlent des éléments de Moudiao, puisqu'on les entendait scander Allahu Akbar en faisant des tirs, nous a-t-on dit. Après leur forfait, les assaillants ont pris la route de Tchénel en passant par Diabouzo pour se diriger vers Kemasina. C'est la 3e fois que les groupes armés attaquent le cercle de Ténankou en moins de 3 mois. La dernière en date est le jeudi 8 janvier lors de la visite du gouverneur de la région de Mopti à Ténankou. Le cercle de Ténankou, faut-il le rappeler, s'ouvre sur le Sahel à travers la ville de Ndjoura pour aller vers les Rés jusqu'à Fassala, en territoire mauritanien. Mamadou Bokoum Mopti pour La Voix de l'Amérique.
Annoncée cette semaine, l'aide militaire tchadienne au Cameroun se concrétise ce vendredi. Des chars ont quitté N'Djamena en direction de la frontière camerounaise pour combattre Boko Haram. Nicolas Pinot.
Oui, plusieurs dizaines de chars ont quitté la capitale tchadienne en direction du sud de la ville, vraisemblablement pour traverser le fleuve Logone et entrer au Cameroun. Dès hier soir, des mouvements de troupes ont été signalés dans N'Djamena. Paul Biya, le président camerounais, avait annoncé jeudi l'offre d'intervention militaire tchadienne de son homologue Idriss Déby. Deux événements ont sans doute accéléré le déploiement tchadien pour combattre Boko Haram, l'attaque de la ville frontalière camerounaise de Kolofata et la prise de la base multinationale de Baga par les djihadistes. Baga est une localité nigériane située sur les rives du lac Tchad. Selon Amnesty International, cette attaque de Baga est la plus grande et la plus destructrice jamais perpétrée par le groupe armé depuis le début de son insurrection en 2009. En 6 ans, Boko Haram a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés. Après le secrétaire d'État américain John Kerry hier, le président français François Hollande a également utilisé le terme de « crime contre l'humanité » pour qualifier les agissements de Boko Haram.
À noter que Boko Haram a enlevé plusieurs centaines de femmes et d'enfants lors de la récente attaque à Baga, dans le nord-est du Nigeria. Des témoins cités par l'AFP et Amnesty International parlent de centaines de femmes captives avec leurs enfants. Boko Haram aurait libéré les femmes âgées et leurs mères, mais les jeunes filles seraient toujours en otage. Dominique Ongwen, l'un des chefs de la LRA qui s'est rendu en Centrafrique, doit arriver aujourd'hui sur Bangui. Une source gouvernementale précise qu'il doit être directement transféré dans la soirée vers La Haye, aux Pays-Bas, où l'attendent les juges de la CPI. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au Burundi, la police a annoncé avoir arrêté un dirigeant de l'opposition dans le cadre d'une enquête sur des affrontements meurtriers au début du mois entre l'armée et des insurgés. Lionel Gaïma.
Patrick Nkurunziza, président de la Ligue de jeunes du Front pour la démocratie, Frodebu, a été arrêté jeudi, a indiqué le porte-parole de la police Pierre Nkurikiye, que cite l'AFP. Il a été conduit dans la province de Cibitoke où sont incarcérées 9 autres personnes accusées d'appartenir au groupe de rebelles ayant lancé une attaque dans cette localité. C'est la dernière d'une série d'arrestations d'opposants qui, selon l'opposition burundaise, vise à les empêcher de participer au scrutin de mai et de juin prochains. Le même jour, le vice-président du Frodebu, Frédéric Bamvugi Nyumvira, a été condamné à 5 ans de prison pour corruption. Une peine qui, selon lui, a été prononcée à son encontre pour le retirer de la course électorale. Pendant ce temps, une nouvelle coalition a été créée au Burundi, rapporte le réseau d'information sur l'Afrique centrale. Le RANAC Dushayure Uburundi Bgogorore réunit 8 partis politiques coalisés pour tenter de remporter les prochaines élections contre le CNDD-FDD au pouvoir. Le Rassemblement national pour le changement, composé entre autres du FNL d'Agathon Rwasa et l'UPRONA de Charles Nditije, indique que sa plateforme politique sera rendue publique dans les prochains jours.
République démocratique du Congo, la prochaine élection présidentielle pourrait être retardée jusqu'à 2017 au lieu d'avoir lieu fin 2016. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, à VOA Afrique.
En 2006, nous avons organisé l'élection présidentielle et même législative quelques semaines après la date fatidique en question. En 2011, nous avons organisé cette élection également quelques semaines après la date fatidique, puisque la Cour constitutionnelle l'avait autorisé à la Commission électorale. Ne fait pas semblant aujourd'hui, comme l'opposition congolaise, de vouloir vous faire croire que le ciel va tomber sur la tête parce qu'il y aurait glissement. Personne ne prévoit de glissement, et en cas de nécessité, la Constitution a déjà prévu cela. Il ne faut pas nous faire dire le contraire. Avant, le motif de la mobilisation, c'était que le président de la République voulait se présenter pour un troisième mandat. Ils se rendent compte que le président n'a jamais sollicité un troisième mandat. Et maintenant, ils veulent faire croire à la population qu'il est interdit de toucher à la loi électorale, alors que c'est tout à fait constitutionnel. Et puis on parle de glissement comme si dans ce pays, le glissement était quelque chose de dramatique ou d'anticonstitutionnel. C'est totalement faux. D'abord, nous ne sommes pas dans un schéma de glissement. Deuxièmement, même s'il y avait ce schéma de glissement, puisqu'il est prévu par la Constitution, nous nous demandons au nom de quel principe ils veulent soulever la population comme ils tentent de le faire depuis plus d'un an sans succès.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Opération antiterroriste, tous azimuts en Europe après les récents attentats en France. Des arrestations et perquisitions ont eu lieu en région parisienne ainsi qu'en Allemagne et en Belgique. En visite dans la capitale française, le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que les États-Unis et la France poursuivaient ensemble et sans relâche la lutte contre le terrorisme. Jacques Aristide.
Une arrivée mitraillée par les photographes à l'Élysée, où le chef de la diplomatie américaine a rencontré le président français François Hollande. Ensuite, dépôt de gerbes aux côtés de son homologue Laurent Fabius, devant les lieux des attaques, le supermarché Cacher et les locaux de Charlie Hebdo. Plus tard, un discours à l'hôtel de ville de Paris, prononcé alternativement en anglais et en français. John Kerry.
La femme a battu un musulman malien qui a risqué sa vie pour sauver des clients juifs de l'hypermarché cachère. Nous n'oublierons pas jamais ces héros. Toutes les victimes de cette tragédie alors que nous sommes confrontés, le monde est confronté à de lâches assassins qui se cachent derrière des cagoules et des fusils d'assaut.
Pendant ce temps, l'Europe est sur le pied de guerre. À Paris, une dizaine de personnes soupçonnées d'avoir fourni des armes et des véhicules aux auteurs des attentats de la semaine dernière ont été interpellées. À Berlin, les autorités affirment avoir effectué vendredi matin une dizaine de perquisitions au sein de la mouvance islamiste. Un ressortissant turc a été arrêté, mais la police indique ne pas pouvoir confirmer que les personnes visées préparaient des attentats en Allemagne. Et du côté de la Belgique, le gouvernement affirme qu'un groupe qui s'apprêtait à commettre des attentats pour tuer des policiers a été démantelé. 13 personnes ont été appréhendées dans le cadre d'une opération marquée par la mort de 2 suspects après avoir riposté à l'arme de guerre.
À Washington, le président Barack Obama et le premier ministre britannique David Cameron ont donné une conférence de presse où ils ont réaffirmé leur engagement dans la lutte contre l'extrémisme. Barack Obama et David Cameron ont publié conjointement cette semaine, il faut le rappeler, dans le Times de Londres, un article où ils ont offert un front uni face aux djihadistes.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique dans la Minute Éco, aujourd'hui avec Jacques Aristide. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Ecobank condamné à verser 15 millions de dollars à un ancien directeur général.
Oui, l'Ivoirien Thierry Tanneux a obtenu gain de cause après son départ forcé il y a près d'un an. Le tribunal de commerce d'Abidjan a en effet tranché en sa faveur. Dans le cadre d'une procédure pour diffamation, un des dirigeants d'Ecobank avait traité M. Tanneux d'immature, de menteur, ajoutant qu'il était inapte à exercer la profession bancaire. Albert Essian, actuel directeur général de la banque, a déclaré au Financial Times que le jugement était injuste et que le groupe ferait appel.
Le Tchad n'abritera pas le 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu initialement en juin 2015.
Un revirement dû à la conjoncture économique marquée par la chute du pétrole et aux problèmes sécuritaires aux frontières avec le Nigeria et le Cameroun, d'après le ministre des infrastructures Adoum Younousmi.
Vous tous, vous allez nous traiter d'irresponsables dans cette situation. Donc face à nos responsabilités, il va falloir prendre des décisions.
Oui. Morgane.
Et c'est parti pour la FEBAC 2015, la foire exposition internationale de Bamako, dont c'est la 11e édition cette année.
Oui, le coup d'envoi a été donné hier par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta en présence du ministre marocain du commerce extérieur Mohamed Abdou, dont le pays est l'invité d'honneur. Pour Ibeka, jamais événement économique n'a été aussi bien organisé dans son pays. Un rendez-vous qui réunit des opérateurs économiques, pas seulement de la sous-région, mais aussi de pays tels que le Pakistan, l'Inde, la Turquie et l'Iran.
Voilà pour la Minute Éco de ce vendredi. Merci Jacques Aristide.
L'actualité sportive, c'est avec Nicolas Pinot. Salut Nico.
Bonsoir chérubin.
Cannes 2015, les dernières infos avant le début de la compétition. Beaucoup de tension hein, en dehors des terrains.
Oui, Claude Leroy, sélectionneur de l'équipe du Congo qui dispute le match d'ouverture demain à Bata contre la Guinée équatoriale, n'est pas content. Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur a répondu de manière très brève aux questions des journalistes. Et puis selon le journal L'Équipe, le Cameroun serait menacé de se faire expulser de son hôtel de Libreville où les Lions Indomptables préparent la Cannes 2015. On rappelle évidemment les deux matchs hein, demain samedi en match d'ouverture. Le Congo-Brazzaville face à justement à la Guinée équatoriale, le pays organisateur, et également le Burkina Faso face au Gabon. Allez, on va vous donner quelques résultats de la Coupe d'Asie. Le Japon a enregistré sa deuxième victoire en venant à bout de l'Irak 1-0. Dans l'autre rencontre du groupe D, la Jordanie a écrasé la Palestine 5-1. Voilà Morgane, ce qu'on pouvait retenir ce soir de l'actualité sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guirguec et Chérubin Dorcil en votre compagnie pour cette édition du 16 janvier 2015. Place au dossier du jour.
Retour sur les violentes manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Zender, au Niger, après la prière du vendredi. C'était en réaction à la caricature du prophète Mohamed parue en une du dernier numéro de Charlie Hebdo. Timothée Donangmaï a joint notre confrère Amadou Mahamadou.
C'est une première ici, on n'a jamais vécu une manifestation de telle ampleur à caractère religieux depuis la fin de la prière du vendredi à 13h30 heure locale. Les différentes mosquées ont vomi leurs fidèles qui ont convergé dans les rues principales et ont érigé des barricades, ont brûlé des pneus et ont attaqué les églises catholiques protestantes, les centres culturels franco-nigériens, les débits de boissons, des arènes, les quartiers Toudjamous, tout ce qui est débit de boissons a été coulé et tous les sièges du jeu de hasard, on appelle ça permis ici, ça a été saccagé, incendié. Et les centres culturels de franco-nigériens d'ailleurs brûlent jusqu'à présent. La manifestation, il y a jusqu'à présent dans les rues des endroits où ça fume encore. Donc, c'est une marée humaine qui a déferlé et ils ont saccagé le siège du parti présidentiel. Ils ont démoli les murs, brûlé les voitures qui se trouvaient, brûlé les papiers, tout, tout, tout. Ils ont saccagé le siège en réaction au déplacement du président en France pour les hommages aux victimes de l'hebdomadaire des attentats de Charlie Hebdo et au soutien à la liberté d'expression en France. Hier, ils ont manifesté ça à travers les SMS pour dire qu'ils vont marcher et ils l'ont fait.
Faut-il voir dans ces manifestations l'impact de la proximité du Nord Nigeria où sévissent les islamistes de Boko Haram en ce moment?
On ne peut pas écarter la proximité du Nigeria parce que vous savez, les gens du Nigeria et ici, c'est le même peuple, les mêmes écoles coraniques, les élèves. Mais Zender, par tradition, au Niger, c'est la région où la foi est très marqué, où les gens sont vraiment des croyants. Ils le montrent les vendredis, tous les vendredis, on se croirait ailleurs, à la Mecque ou à Médine, dès 10h, les gens arrêtent toute activité pour aller dans les mosquées. Et si vous voyez les gens déferler dans les mosquées, c'est une marée humaine qui déferle tous les jours dans toutes les mosquées. Il y en a beaucoup ici, et période du vendredi. C'est une ville de religion, c'est une tradition. Sans Boko Haram, avant même Boko Haram, en 90, il y a eu phénomène bougé ici. On a un vendredi, les gens ont marché, ils ont détruit le siège de l'association des femmes du Niger. Ils se sont attaqués au quartier des femmes libres. Ils ont détruit, les femmes étaient obligées de fuir pour aller à Maradi ou aller vers d'autres villes.
Le journaliste Amadou Mahamadou, joint à Zender au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zender et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap maintenant sur le Gabon, où la justice a relaxé la majorité des partisans de l'opposition arrêtés lors d'une manifestation le 20 décembre dernier. Pour rappel, de violents heurts avaient opposé les manifestants aux forces de l'ordre lors de ce rassemblement où l'opposition réclamait le départ du président Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, les leaders de l'opposition se disent satisfaits de la mesure judiciaire tout en demandant la remise en liberté des autres détenus du 20 décembre.
Alors j'ai joint Pierre Amugemba, il est secrétaire exécutif du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon.
Nous avons eu la joie d'apprendre ce matin que le juge avait suivi les plaidoiries de nos avocats et avait relaxé la quasi-totalité des prévenus. Je tiens à dire que l'accusation n'a produit à aucun moment les preuves de la culpabilité de l'un d'entre eux et que par ailleurs, les bases sur lesquelles il avait bâti son argumentaire ont été détruites par nos avocats. Ce qui fait que le juge n'a eu aucune peine a décidé de relaxer. Ce que je regrette, c'est que pour un ou deux d'entre eux, le juge, après avoir reconnu que l'attroupement n'était pas interdit, a décidé malgré tout de retenir le fait que le meeting était interdit. Or, le meeting n'était pas interdit.
Ces deux personnes, elles encourent quoi?
Elles encourent 3 mois de condamnation, dont 2 avec sursis. Et pour ceux d'entre eux qui sont d'origine étrangère et qui n'avaient pas de cas de séjour, elles
ont eu 6 mois de condamnation, dont 5 avec sursis. Et évidemment, ils seront expulsés du Gabon pendant 5 ans. Ils seront interdits de séjour au Gabon pendant 5 ans.
Vous appelez évidemment à leur libération.
Absolument.
Après ce qui s'est passé le 20 décembre, et compte tenu de la réaction musclée des autorités, est-ce que l'opposition va changer de stratégie?
Nous n'avons pas encore arrêté une attitude définitive à ce sujet, mais je voulais dire la chose suivante, c'est que de notre point de vue, il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que le parti au PDG ait la possibilité de faire des meetings et des marches et que nous n'ayons, nous, aucune possibilité de pouvoir à notre tour manifester et pouvoir dire ce que nous avons sur le cœur. De même, nous ne trouvons pas tout à fait normal que le parti au pouvoir, le PDG, ait le monopole des médias spéciaux qui sont en fait à la charge des contribuables gabonais. Alors, l'opposition n'a pas le droit de passer à la télé et à la radio nationale. Nous trouvons ça tout simplement scandaleux.
Pierre Amougemba, secrétaire exécutif du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Zimbabwe, 31% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et le pays est connu pour ses mariages précoces. Mais aujourd'hui, certaines d'entre elles disent « assez, c'est assez » et ont saisi la Cour constitutionnelle pour fixer à 18 ans l'âge minimum. Voici un reportage d'un correspondant sur place présenté par Michel Joseph.
Loveless Mudzuru et Ruvimbo Topodi étaient trop jeunes quand elles ont été données en mariage et ont eu pour la première fois des enfants. Dans leur saisine de la plus haute instance judiciaire du Zimbabwe, elles demandent spécifiquement que l'âge légal du mariage pour les filles passe de 16 à 18 ans, comme c'est le cas actuellement pour les garçons. Elles veulent aussi l'annulation des mariages précoces actuels. Un tel effet rétroactif pourrait affecter un grand nombre de filles et leurs familles. Pour leur avocat, l'ancien ministre des Finances, Tendai Biti, il s'agit d'assurer que les futurs mariés prennent librement leurs décisions.
Il y a un problème de mariage précoce au Zimbabwe. Une femme sur trois est mariée avant l'âge de 18 ans. 20% d'entre elles sont en grossesse avant 15 ans. Donc on parle de très jeunes enfants dont la plupart viennent de familles pauvres. En somme, on a une enfant qui attend un enfant, ce qui affecte leur scolarité ainsi que leur chance de succès et perpétue le cycle de la pauvreté.
Du reste, fait remarquer Tendai Biti, la nouvelle constitution fixe à 18 ans l'âge requis pour se marier. De son côté, Emily Nafambo de l'ONG Plan International souligne que les mariages précoces violent les droits des enfants et doivent prendre fin.
We have very high prevalence rates of short marriages, second from South Asia.
Nous avons un taux très élevé de mariages précoces après l'Asie du Sud. Notre région en est à 37%, mais au sein de cette région, il y a des points chauds avec des pays qui dépassent ces 37%. Par exemple, au Malawi, au Mozambique, au Zimbabwe et en Zambie, où le taux de prévalence frise les 50%, cela signifie que 50 sur 100 jeunes filles sont mariées avant qu'elles n'aient 18 ans. Ceux qui luttent contre les mariages précoces expliquent cette réalité par la pauvreté, l'ignorance et des coutumes bien ancrées. Les conséquences sont nombreuses sur le plan des droits humains et de l'instruction des filles qui risquent ainsi de ne pas avoir de bons emplois et des soins de santé adéquats. Les conséquences peuvent être même mortelles, cette situation de mère-enfant contribuant à des taux élevés de mortalité infantile et maternelle.
Et nous allons passer tout de suite à notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Timothée Donangmaï.
Bonsoir Gabi.
Oui, alors nous le disions tout à l'heure, ça débute demain sur le terrain, mais la cérémonie d'ouverture, c'était ce vendredi, et deux matchs en perspective.
Et oui, Gabi, les Algériens sont logiquement favoris de cette épreuve. Les Fennecs, entraînés par Christian Gourcuff, se sont qualifiés facilement pour ce tournoi, remportant 5 victoires lors des éliminatoires. Auréolée de son bon parcours au Mondial 2014, où elle a été sortie en 8e de finale face au futur champion du monde allemand, l'Algérie est aujourd'hui l'équipe africaine la mieux classée au classement FIFA 18e. Placée dans le groupe C, présentée comme le groupe de la mort, les Algériens devront d'abord sortir de ce premier tour difficile avant d'espérer remporter un trophée qui leur échappe depuis 1990.
Alors, Timothée Donangma, et qu'en est-il des deux autres poids lourds du continent, la Côte d'Ivoire et le Cameroun?
Il faut dire, Gabi, qu'un vent nouveau souffle au Cameroun depuis le désastreux mondial brésilien et la retraite internationale de Samuel Eto'o. Coïncidence ou non, les Lions indomptables se sont depuis relevés. Quadruple champion d'Afrique, mais absent en 2012 et 2013, les Camerounais veulent se faire pardonner. Après un excellent parcours lors des qualifications, les joueurs devront se sortir d'un groupe D difficile où ils retrouvent la Côte d'Ivoire qu'ils avaient battue en éliminatoire.
Alors Hervé Renard évitera-t-il une nouvelle désillusion pour la Côte d'Ivoire?
Le technicien français a pris les rênes d'une sélection qui n'a toujours pas réussi à passer le cap du premier tour malgré 3 Coupes du Monde d'affilée. Didier Drogba a pris sa retraite internationale, mais à l'inverse des Camerounais, les Ivoiriens n'ont pas rassuré lors des éliminatoires où ils ont péniblement décroché la 2e place de leur groupe. Sur papier, cette équipe fait peur. Emmenée par Yaya Touré, sacré pour la 4e fois joueur de l'année par la CAF, les éléphants peuvent aussi compter sur le talentueux Gervinho, Salomon Kalou et Wilfried Bonny.
Et les petites équipes, entre guillemets, ont-elles une chance?
La RDC peut s'appuyer sur les cadres issus de ses 2 grands clubs, le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club, finaliste de la Ligue des Champions en 2014. Mais les Léopards n'ont pas eu accès au quart de finale depuis 2006. Quant à la Guinée, elle a pris une raclée 5-2 face au Sénégal en match de préparation pas facile pour la confiance.
Merci Timothée Donangmaï.
On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Le Brazzavillois Zao travaille sur son 8e album. Adepte du trompe-l'œil avec des textes qui jonglent entre légèreté et profondeur, le chanteur congolais réactualise son propos avec l'album Nouveau Combattant. On se rappellera toujours de son morceau fétiche, Ancien Combattant.
Mwangaze militaire, mwangaze militaire, moi pas besoin galop. Sous témoin du riz. Serza Masamba, trahir Mangasa, caporal Mitsotso, la guerre pour moi, vous cherchez vos sorrows. Yzatra, Yzatra, tata, 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 tata,
tata, militaire, tata, sakana. Tu couvri questo.
Moga pepe, moga pepe, mo yinga kanga kwe. Moga pepe, mo yinga kanga kwe. Maquelle pas, 1, 2, on sait combattant, on a soukéré. Maquelle pas, et 1, 2, on sait combattant, on a soukéré.
Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale.
C'était Zao dans Ancien Combattant.
Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Morgane.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
J'ai tué Allemand. J'ai tué Angélé, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'appelait pas.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi à la présentation. Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas mi changi mon chéri ho,
Il y a cadavre avec les coups de main.